Deutsche Welle, Allemagne, Europe.
They came from far when they came alone.
Ils sont venus de loin, ils sont venus seuls, vêtus de vêtements aux couleurs de l'arc-en-ciel. C'est Carnaval, interprété par la chanteuse brésilienne Dom La Nena. Le Carnaval est célébré cette semaine dans plusieurs villes de l'ouest de l'Allemagne, mais c'est à Munich que nous nous rendrons, une ville qui a vu défiler de nombreux réfugiés l'an passé, parmi lesquels des femmes enceintes ou de jeunes mamans. Une équipe de sages-femmes leur vient en aide. 28 membres, 24 langues officielles, je m'appelle l'Union européenne. Je suis née en 1950 et je traverse une grande crise de la cinquantaine. Pourquoi j'existe? À quoi je sers? Y a-t-il encore des gens qui croient en moi? Tentative de réponse dans la seconde partie de ce magazine. Au micro, c'est Constance Wenkotze. Guten Tag, bonjour à tous.
In purple and pink. And queens in clocks of blue.
Il y a beau avoir des dizaines de milliers de personnes fuyant chaque jour les zones de conflit de ce monde, cela n'empêche pas les bébés de voir le jour. Dans les centres d'accueil de demandeurs d'asile en Allemagne, vivent nombre de femmes enceintes ou de jeunes mamans sans grande aide professionnelle pour s'occuper d'elles et de leurs enfants. À Munich, une équipe de sages-femmes s'engage pour leur assurer un suivi de qualité. Reportage de notre correspondante dans la capitale bavaroise, Isabelle Hartmann.
La petite Emilia a tout juste 2 semaines et demie et ne trouve guère amusant d'être réveillée par la sage-femme pour être examinée et pesée. Mais malgré ses protestations, Emilia a de la chance. Sa mère vient du Nigeria et vit depuis 2 mois dans un camp d'accueil pour demandeurs d'asile à Munich. Une situation difficile pour les femmes enceintes et les jeunes mamans, car leur suivi médical est compliqué à organiser. Mais Mélanie Neuer tient l'une de ses permanences hebdomadaires, précisément dans cette ancienne caserne militaire. La sage-femme vérifie ainsi 2 fois par semaine qu'Emilia grandit bien et donne à sa mère des conseils pratiques pour sa nouvelle vie de maman.
Le mieux, c'est de ne pas utiliser de talc. C'est l'hiver, les petits ne transpirent pas. Mais si vous souhaitez lui en mettre, alors mettez-vous-en juste un peu sur les doigts, loin du bébé, et appliquez-lui comme une crème.
La maman d'Emilia ne souhaite pas être reconnue. C'est pourquoi nous ne dévoilons pas son nom et avons changé le prénom et la date de naissance de sa fille. La Nigériane apprécie l'aide que Mélanie Noya lui donne depuis des semaines. Elle est un peu sa mère et sa sœur à la fois, dit-elle, et fait un travail parfait.
She's like my mother, my sister. You do a perfect job.
Cela fait maintenant 2 ans et demi que Mélanie Neuer accompagne les femmes enceintes et les jeunes mamans durant leur maternité au sein des camps d'accueil de Munich. Un travail fort différent de celui qu'elle fait habituellement pour les femmes munichoises.
Aujourd'hui, j'ai coordonné des consultations chez le médecin, je leur ai pris un rendez-vous à l'hôpital, j'ai donné une carte pour qu'ils trouvent leur route jusqu'à la gynécologue, j'ai expliqué le système d'assurance maladie allemand. Tout ça n'a en fait rien à voir avec mon métier de sage-femme et le côté médical. Mais il faut bien que quelqu'un leur explique comment ça fonctionne. Au début, je voulais surtout m'occuper des enfants et des femmes en couche. Mais je me suis rendu compte qu'après l'accouchement, tout va plus ou moins de soi. Les femmes ont alors nettement moins besoin d'aide que durant leur grossesse.
Au début, Mélanie Neuer aidait seule les demandeuses d'asile. Dans certains centres d'accueil, 20 à 30 mères ou femmes enceintes consultaient la sage-femme chaque jour. Aujourd'hui, la grande blonde dynamique peut compter sur l'aide de 3 autres collègues très engagés. Depuis la mi-janvier, elles ont mis en place un groupe de travail pour échanger des informations et former de nouvelles sages-femmes au travail dans des centres d'accueil. Leurs questions sont souvent très pratiques, a constaté Mélanie
Neuer.
C'est surtout le côté bureaucratique qui leur pose problème. Comment puis-je envoyer quelqu'un chez un gynécologue ou dans un laboratoire? De quel papier ai-je besoin pour cela? À qui puis-je m'adresser lorsque j'ai des questions? Où puis-je trouver un gynéco et comment s'y rend la future maman? À pied ou bien est-ce qu'elle obtient le paiement d'un taxi ou d'un ticket de métro?
Et qui paye leur travail? Pour assurer une prise en charge rapide, la ville de Munich a trouvé une solution toute simple. Les sages-femmes peuvent facturer leurs prestations directement à la commune plutôt qu'au ministère fédéral qui s'occupe des demandeurs d'asile. La ville récupère plus tard l'argent déboursé auprès des autorités en charge. Retour dans la petite infirmerie du centre d'accueil où officie Mélanie Neuer depuis 2 heures. La maman d'Emilia est retournée dans sa chambre. Devant la sage-femme est maintenant assis un couple de Syriens. La jeune femme est enceinte du 3e mois. C'est le moment de faire la première échographie. Le couple a l'air heureux. Pour eux, c'est clair.
Si c'est une fille, nous l'appellerons Angela, pour Angela Merkel. Les pays arabes, voisins de la Syrie, ne nous ont pas accueillis. Angela Merkel et les Allemands, par contre, nous ont ouvert leurs portes. Nous sommes très heureux ici.
Si tout se passe bien, leur premier enfant verra le jour en Bavière, en juillet prochain.
Une sage-femme pour les réfugiés, un reportage depuis Munich d'Isabelle Hartmann. Et la gestion de la crise des réfugiés continue de faire la une de l'actualité européenne. Cette semaine encore, le Danemark a prolongé les contrôles aléatoires à ses frontières avec l'Allemagne jusqu'au 23 février. Pour justifier cette mesure, le ministère de l'Immigration a invoqué le risque de voir se poursuivre l'afflux de migrants sur son sol. À ce jour, 6 États membres de l'espace Schengen sur 26 ont mis en place des contrôles provisoires à leurs frontières. Les réfugiés qui affluent, l'euro qui déprime, le chômage qui grimpe, l'extrême droite qui monte, Bruxelles qui dort, Bruxelles qui dîne, la Grèce qui crise, Londres qui se détache, l'Allemagne qui s'accroche, la Pologne qui se durcit, la Hongrie aussi. Plus de 50 ans après sa création, l'Union européenne est-elle encore une union et à quoi bon? La réponse avec Gisela Müller-Brandeck-Bocquet. Elle est professeure en sciences politiques à l'université de Würzburg dans le sud de l'Allemagne. Elle a récemment écrit un article pour le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung, article intitulé « L'Europe en danger ». On l'écoute.
Ça, c'est la question centrale. Et c'est aussi le problème central de l'Europe, je crois. Parce que dans le passé, c'était évident. L'Europe, ça promettait la paix, ça promettait la reconstruction, une certaine bien-être économique. Tout ça, c'était plausible. Tout le monde, après les catastrophes de l'Holocauste et de la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde comprenait ça. Maintenant, dans nos temps actuels de mondialisation et tout ça, il y a un réflexe de croire que face à toutes ces challenges, peut-être il vaut mieux essayer de se sauver seul en tant qu'État national. Or, si on regarde bien la situation internationale, les menaces, les chances et tout ça, ce que ça représente, c'est évident que l'Europe doit être plus unifiée que jamais. Et pourquoi c'est important que l'Europe ait son mot à dire? C'est tout simplement parce que l'Europe a certaines valeurs, des façons de vivre, d'être, de penser, qui doivent être impliquées dans cette construction de notre futur. C'est pour ça ce réflexe de renationalisation qu'on aperçoit en ce moment, je crois, c'est extrêmement dangereux.
Qu'est-ce qui fait que les citoyens n'y croient plus, ne s'y intéressent même plus? Qui doit agir?
Il faut l'unité de l'Europe, aujourd'hui, aussi nécessairement que dans le passé. Mais c'est plus difficile à expliquer aux gens. Et là, je pense tout le monde, aussi bien Bruxelles que toutes les capitales européennes, ont échoué dans les dernières décennies d'expliquer ça aux gens.
Qu'est-ce qui fait que l'Allemagne et la France ont toujours un rôle spécifique et quel est-il aujourd'hui? Est-ce qu'il a changé par rapport au début de l'Union européenne?
On a tellement parlé depuis des décennies, on cherche quand même d'autres pays européens qui pourraient aider ce moteur à développer la force nécessaire. Le problème, si vous faites le tour, qui est vraiment là pour renforcer ce moteur de l'intégration? Ce fameux triangle de Weimar qui intègre l'Allemagne, la France et la Pologne, il n'a jamais marché. Et en ce moment, avec le gouvernement actuel polonais, il n'y en est pas question. Et les autres pays, tels que la Grande-Bretagne, sont loin de renforcer ce moteur. pourquoi des pays comme l'Italie et peut-être aussi l'Espagne, ils ne sont pas là pour renforcer ce moteur.
Et est-ce que vous avez des idées concrètes? Qu'est-ce qui pourrait être fait pour relancer ce moteur et donc l'intégration européenne?
Il faut, dans nos temps actuels où les citoyens veulent être impliqués beaucoup plus dans les grandes décisions, il faudrait vraiment lancer un énorme débat simple sur ces questions. Pourquoi l'Europe? À quoi bon l'Europe? À quoi nous sert l'Europe? Et là, je pense qu'il faudrait vraiment aussi se servir. On a tellement de moyens de communication modernes, des nouveaux moyens, on pourrait les utiliser pour lancer ce genre de débat. Et je pense aussi que la France et l'Allemagne devraient être au centre dans l'autre grande question. Qui vraiment est l'Europe? Qui gouverne? Qui mène l'Europe? Je suis convaincue que là, il faudrait innover et trouver, chercher activement une autre division de travail. Là, je vois par exemple des signes positifs. Si vous pensez à la crise en Ukraine, là, à un certain moment, c'est vraiment la France et l'Allemagne, avec la Russie et l'Ukraine, qui ont pris le devant pour trouver au moins une solution. Je pense que ce genre de construction additionnelle qui donne plus de force à l'Union européenne, que ça pourrait être des petites solutions. Il faut travailler pour en trouver plus et pour les renforcer. Parce que c'est sûr qu'en l'état actuel, les institutions européennes ne sont pas capables de vraiment agir au nom de toute l'Europe. Et là encore, il y a un rôle spécifique de la France et de l'Allemagne. Ce n'est pas parce qu'on a toujours fait ce boulot, mais plutôt parce que si vous regardez bien, qui pourrait nous aider? Il n'y en a pas beaucoup.
L'analyse de Gisela Müller-Brandegg-Bocquet, spécialiste des questions européennes et internationales à l'Université de Würzburg. Une interview à retrouver comme le reste de ce magazine sur notre site internet dw.com/français dans la rubrique médiathèque ou podcast. Et puis si vous voulez nous écrire, nous poser des questions ou nous suggérer des sujets, rien de plus simple, il suffit de nous faire parvenir un mail à français@dw.com. Nous sommes toujours ravis de vous lire. En attendant, bonne semaine à tous, à la prochaine et tchuss. Just to admit one mistake, it can be hard to...